Je vais rappeler aussi le docteur Janton, venez vous asseoir aussi avec nous. Je vais me tourner vers vous, peut-être vous avez des questions, des compléments d'informations que vous souhaitez que nous apportent les deux médecins. Donc je vous propose de nous faire un petit signe, on va vous apporter le micro. Camille fait circuler le micro, voilà.
Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur l'exemple que vous avez choisi de cette infirmière qui ne veut pas lâcher son mari en tant qu'aidante et à qui vous proposez ou vous semblez vouloir proposer dans l'avenir l'EHPAD. Alors moi, vous le voyez tous, je suis en fauteuil roulant, je suis en situation de handicap depuis ma naissance. Et depuis ma naissance, je lutte contre l'institutionnalisation. Puis, la solution la plus pratique, mais en termes d'empathie, en termes de respect de la personne, je ne suis pas persuadée. Et je comprends très bien cette infirmière qui refuse et qui, au risque d'y laisser sa peau, parce qu'en fait, c'est ça la réalité, la compensation du handicap de son mari est tellement insuffisante que c'est elle qui compense et fait des védas qui font des burn-out, là où on devrait avoir un système de prise en charge de la maladie et une reconnaissance pour pouvoir vivre normalement.
Vous avez une question, madame ? Est-ce que vous avez...
Alors, ma question, c'est comment on peut faire quelque chose pour que cette compensation soit faite de manière effective ? Puis pour le 24 heures sur 24, puis pas une heure par jour.
Je vous rejoins complètement et c'est toute la difficulté de la charge financière aussi qui pèse sur les aidants. Et il y a des aidants qui peuvent se le permettre de faire venir quelqu'un à domicile plusieurs heures par jour, voire des nuits, pour qu'il puisse souffler. Et il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Et malheureusement, on sait que c'est un coût financier qui est important. Mais je vous rejoins complètement. Après, pour les dents dont je parlais, sa difficulté, elle n'est pas que financière. Elle est aussi à passer le relais, ce qui est extrêmement difficile pour elle. C'est aussi d'envisager une structure d'accueil et de passer le relais avec confiance à un établissement, tout en se disant « j'ai pas réussi, moi ». Voilà. Et je crois que ça, c'est aussi très difficile dans l'accompagnement, parce que quand on passe le relais à une structure, il y a aussi ce sentiment de « j'ai pas réussi à le garder jusqu'au bout ». Surtout s'il y a des engagements qui ont été pris comme ça auparavant, et qui du coup donnent lieu à beaucoup de culpabilité.
Il y avait une autre question, relevez la main, voilà monsieur. Madame, au fond, je peux vous demander d'enlever le flash s'il vous plaît, parce que ça nous éblouit beaucoup et on ne voit pas la salle. Merci beaucoup.
Alors, j'ai deux questions assez rapides. La première, c'est il y a pas mal d'études qui démontrent que les tests de l'odorat sont utiles pour dans les stades précliniques d'Alzheimer pour détecter la maladie avant que n'apparaissent les signes cliniques. Je ne comprends pas pourquoi les centres mémoire n'utilisent pas ces tests olfactifs, c'est ma première question. La deuxième sous-question, c'est pourquoi on n'utilise pas les stimulations olfactives, puisqu'on sait très bien que les stimulations olfactives peuvent agir sur le cognitif, donc peut-être retarder le déclin. Et dernière question, qui n'a rien à voir, enfin rien à voir plus ou moins, il y a plus de femmes qui ont... L'Alzheimer atteint beaucoup plus souvent les femmes que chez les hommes. Est-ce que c'est lié au fait que les femmes ont une espérance de vie plus importante que les hommes?
Voilà. Merci pour ces questions. Alors, l'olfactif.
C'est une très bonne question, effectivement, et tout à fait pertinente. L'olfaction, première chose, qu'est-ce qui se passe avec l'olfaction dans les maladies neurodégénératives? Alors, c'est très très clair pour le Parkinson. Et pour la maladie qui ressemble beaucoup, enfin qui a le même mécanisme, qui est la maladie à corps de Lévy. C'est moins clair pour l'Alzheimer, mais il y a probablement quelque chose qui se passe aussi. Mais en effet, vous avez tout à fait raison, les troubles olfactifs notamment pour le Parkinson et pour le corps de Lévy, existent, sont très fréquents et pourraient être un prodrome et un signal de la maladie. Pour l'Alzheimer, c'est moins bien connu et c'est amusant parce que je suis en train de recevoir les réponses à un appel à projet qu'on lance tous les ans et il y a précisément un projet qui veut étudier ça sur une cohorte de patients Alzheimer comparé à des patients normaux, à sujets normaux comparé à des maladies justement type Parkinson et corps de Lévy. Donc on aura peut-être une réponse. Côté thérapeutique, je n'ai pas d'avis très fort aujourd'hui, je n'ai pas vu de très bonnes études là-dessus, démonstratives, mais peut-être que j'ai raté ça. Et le paradoxe, c'est que si effectivement l'olfaction diminue, à moins d'intervenir très tôt, on ne va pas avoir une bonne voie d'entrée, puisque par définition, le test sera perdu. Mais je me souviens de la Madeleine de Proust, et, goût, odorat, c'est pareil, et donc effectivement, réactivation des souvenirs et odorat, bien sûr, c'est une voie d'entrée vers la mémoire par la sensorialité, oui. Et Alexandre, la troisième question...
Je voulais faire réagir Alexandra Guéraudy, puisqu'on parle des centres ressources mémoire. Est-ce que c'est des choses qui sont utilisées, en tout cas? Non. OK.
Et la troisième question, je l'ai perdue dans la discussion.
C'était de savoir pourquoi ce n'était pas utilisé pour une...
Non. Bien sûr. Alors c'est tout à fait vrai. Les femmes sont 65% plus, enfin il y a 65% de femmes pour 45 d'hommes à peu près. Hein. C'est donc une vraie majorité. Évidemment, le fait que les femmes ont une durée de vie plus longue joue un rôle, mais pas que, si je peux dire. C'est comme ça. Il y a probablement pas que ça. Et là aussi, on a une équipe une des meilleures équipes mondiales de génétique à Lille qui travaille précisément là-dessus, on finance un projet sur ce thème-là, et là aussi on aura la réponse. La réponse est peut-être en partie génétique, en partie sourdement sûrement génétique, parce qu'on n'a pas les mêmes chromosomes, il y a un XY, c'est pas la même chose, et peut-être hormonal aussi, avec la chute hormonale au moment de la ménopause. Voilà, il y a un certain nombre de facteurs, mais c'est quelque chose en cours d'exploration, j'ai pas de réponse aujourd'hui, c'est probablement pas que démographique.
Camille, il y a une personne... Oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait que les femmes ont une... Enfin, le fait qu'elles ne travaillaient pas avaient une réserve cognitive qui était beaucoup moins importante?
C'est très possible.
Ouais.
C'est tout à fait pertinent.
Le fait de stimuler, au plus vous stimulez, au plus vous créez des réseaux neuronaux, au plus vous créez une plasticité cérébrale et une réserve cognitive importante. Donc, est-ce que aussi la question du lien avec le travail...
Oui, il y a un monsieur qui a... Voilà.
Bonjour. À titre d'information, je travaille au CHU aussi de Montpellier, au sein de l'unité comportement cognitif. C'est un service qui s'occupe des gens qui sont touchés par différents troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer. Et ce service prend souvent des gens dans le but de soulager les familles. On peut les garder entre un mois et des fois ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois. Donc c'est dans le but d'accompagner les familles, soulager les souffrances. Après, il y a tout un système qui est mis en place derrière par la psychologue, la psychothérapeute, parce qu'il y a sans doute parfois un retour à domicile avec des ergothérapeutes qui interviennent pour aménager l'intérieur des maisons. Essayer de trouver des solutions avec des familles qui n'arrivent plus pour des structures adaptées. Donc c'est juste à titre informatique.
Merci beaucoup.
Voilà, oui, tout à fait. D'ailleurs, nous travaillons en lien avec votre unité, puisque la dame dont je parlais tout à l'heure, qui s'est pris un coup de poing dans la face, la première chose qu'on a fait, effectivement, c'est d'adresser son époux dans votre établissement.
Oui. Je voulais le souligner parce que...
Oui, vous avez bien fait.
Je travaillais pendant des années au CHU de Montpellier, je n'étais pas au courant. Il a suffi que je postule depuis 2 ans dans ce service et je trouve quand même que c'est un travail formidable qu'il faut souligner.
Oui,
but de soulager les familles, les aider. Oui. Il y a même des assistantes sociales qui mettent des choses en place matérielles pour pouvoir aider les gens qui sont en difficulté.
D'où l'intérêt d'ailleurs de rentrer dans les réseaux et de contacter notamment France Alzheimer, qui est très au courant de toutes les structures qui existent autour de la maladie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever... la main bien haut, que l'on vous voit. Non? Pas d'autre? Oui, madame.
Bon, je ne pense pas que ma question soit vraiment en rapport, mais est-ce qu'une leucopathie stade 2 c'est une dégénérescence de la substance blanche, puisse amener à un Alzheimer.
J'avoue que je n'ai pas la réponse.
On n'a pas la réponse.
La leucopathie, bon, c'est effectivement une atteinte de plutôt de la myéline, c'est pas ce qui est au premier plan, mais là aussi, j'ai la même réponse. On a un projet de recherche sur cette thématique-là, la myéline en tout cas, sur la myéline et Alzheimer, la gaine de myéline qui aide effectivement à la conduction là, dans l'axone, l'axone de la gaine de myéline, et ça favorise la vitesse de la conduite de l'information dans la gaine. Est-ce que c'est important ou pas? On ne peut pas répondre aujourd'hui.
Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame, on va vous apporter un micro.
Bonjour. Moi, je vous laisse juste demander pourquoi le diagnostic est si long. Parce que ça peut durer 2 ans pour avoir un diagnostic.
Le diagnostic, oui. qui est très long à être fait.
Et il est fait trop tard et trop lentement. Alors, ouais. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, peut-être qu'au début, la famille, dans certains cas, la famille ne veut pas reconnaître la maladie. On peine un peu. Je ne parle pas d'un cas particulier, mais peut-être en général, dans les facteurs qui peuvent jouer. Hein. Donc, peur de la maladie qui fait qu'on n'ose pas en parler, qu'on n'ose pas la reconnaître et qu'on n'ose pas consulter. Les médecins généralistes ne sont pas toujours très formés, il faut reconnaître. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Leur décharge, et puis c'est pas leur tasse de thé parce que ça n'a pas été bien enseigné, peut-être parce que voilà,
disons qu'il faut le temps que le médecin généraliste puisse effectivement reconnaître cette potentialité, c'est ça, de cette maladie là, puis qu'il adresse aux spécialistes, puis que les examens soient faits.
Les CMRR font un excellent travail, mais il y a souvent des listes d'attente longues. Donc tout ça se cumule et retarde le diagnostic. Oui, quelquefois, les patients eux-mêmes sont réticents à aller consulter. Donc il faut que la famille fasse preuve de conviction. Ça prend quelquefois 6 mois, un an, avant que la personne accepte, se laisse convaincre. Donc voilà, il y a tous ces facteurs qui s'accumulent. Et puis peut-être aussi un sentiment un peu d'impuissance qui fait qu'on baisse les bras et en disant à quoi bon ? À quoi bon faire le diagnostic, puisque de toute façon, on ne proposera pas grand-chose. Alors j'espère vous avoir convaincu du contraire. Mais
dans notre cas, ce n'était pas ça, parce que moi, je me suis occupée longtemps de personnes Alzheimer, donc depuis 82, et je me suis rendu compte que ma sœur, qui vivait toute seule en Suisse, elle avait un problème. Et du coup, on a pris rendez-vous avec un neurologue, on a eu le rendez-vous au bout d'un an et demi.
Eh oui. Alors ça, c'est le problème, effectivement, de rendez-vous. Merci, madame, pour votre intervention.
J'ajoute juste que les différents plans Alzheimer qui ont été développés là, depuis ces décennies essayent de combler, en tout cas, des structures de consultation mémoire de proximité pour éviter que dans certaines zones, il manque de lieux où on puisse justement être reçu et pouvoir émettre un nom sur une plainte de la mémoire. En tout cas, nous, au Centre Expert de la Mémoire, on essaye vraiment de diminuer, et c'est dans le cahier des charges, de diminuer le délai de prise de rendez-vous et pour ensuite avoir des résultats qui soient le plus rapides possible. Mais c'est vrai qu'on a des délais dans les consultations.
Merci beaucoup. Oui. Oh, on vous apporte un micro, monsieur, sinon on ne vous entend pas.
Oui, concernant les autotests. C'est-à-dire que pour le Covid, maintenant, on est capable de s'auto-tester. Vous avez parlé de tablettes, de tests sur tablettes qu'on pourrait faire soi-même. C'est faisable ou pas?
Alors, c'est faisable. Alors, je suis un petit peu réservé sur un usage trop diffusé. Je pense que c'est intéressant de garder des auto-tests, mais entre les mains de professionnels. Parce que d'une part, s'ils sont dévoyés, les patients vont s'entraîner et ils perdront de leur valeur parce que finalement ils connaîtront les réponses, si vous voulez, je caricature, mais c'est l'image, hein, il y a un apprentissage. Deuxièmement, il faut un accompagnement aussi après le test. Donc je crois que ça doit faire partie d'une démarche de soins, être intégré et pas être fait comme ça à droite à gauche, où finalement vont le faire les patients anxieux et qui vont finalement se convaincre qu'ils sont malades parce qu'ils sont très stressés pour prendre le test, d'autres qui en auraient besoin qu'ils ne le feront pas parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades. Donc je pense qu'il ne faut pas vulgariser tout ça et le mal l'utiliser. C'est des outils qui existent, je pense qu'il faut qu'ils soient intégrés dans une démarche appropriée.
J'ajouterais que la plainte amnésique, elle peut avoir différentes origines. La plainte amnésique n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer. Donc on peut faire un test comme ça à domicile, se dire « ah ben voilà, j'ai un trouble cognitif » et faire des conclusions, alors que en tant que clinicien, on sait très bien qu'il peut y avoir de multiples causes, et c'est pour ça que je rejoins tout à fait le docteur Janton, il faut que ce soit accompagné par des professionnels.
Merci beaucoup. Oui, on va vous apporter un micro, et ensuite on va poursuivre. On va vous parler justement des initiatives locales.
Alors moi, c'est juste savoir si la recherche se penche sur la question du sucre, de la consommation de sucre. Parce qu'on en parle beaucoup. Souvent, les aidants font état de ces questions et la consommation de sucre, parce que les proches, avec le vieillissement et avec les troubles, en demandent davantage. Donc voilà, est-ce qu'au niveau de la recherche aujourd'hui, le sucre est sous les projecteurs et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci.
Ce que je peux répondre, c'est que le diabète est un facteur de risque vasculaire majeur et que donc effectivement le diabète est un facteur de troubles démentiels potentiels par le biais de défenses vasculaires, et peut-être effectivement il y a une conception à une époque, on a beaucoup parlé de ça, le diabète de type 3 qui était le diabète du cerveau et qui effectivement il y a une mauvaise utilisation du glucose là-haut alors que le cerveau est un grand consommateur de glucose, donc on a besoin de sucre bien sûr. Les pics, c'est peut-être pas très bon. Donc, effectivement, éviter les pics et puis surtout prévention du diabète, hein, dépistage et prévention du diabète. Oui.
Merci beaucoup. Oui.
Juste pour ajouter, de plus en plus, quand même, on entend des conférences sur le microbiote, le lien entre le microbiote et les maladies cérébrales. Et voilà, quid ça va être l'avenir, je pense. Voilà. D'où l'intérêt, comme disait le docteur Janton dans une de ses diapositives, pour tout ce qui est prévention, hein, prendre soin de soi, de son cerveau, de son alimentation, de ses loisirs, de l'activité sportive. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on remercie les docteurs Guiraudy et Janton pour leur intervention.